Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous vous proposons de commencer ce dernier moment ensemble. En guise d'introduction, on dira d'emblée que nous n'oublions pas que nous avions proposé d'axer cette conférence sur le futur. Ça a été dit à plusieurs reprises. C'est bien cela que nous ferons au moment d'ouvrir à notre temps, même si au final, pour y parvenir, nous avons nous aussi souhaité utiliser le truchement de l'histoire. Alors aucun paradoxe, on essaiera de vous en convaincre. Et nous voudrions, pour ne pas perdre trop de temps, commencer assez classiquement par une présentation, puisque vous voyez ici nos présentations institutionnelles, elles sont valables, on n'a pas menti, nous sommes vraiment attachés à ces institutions. Mais comme la question de nos identités est assez fortement présente dans notre discipline, et que pour ma part, je souhaite les évacuer, ces questions d'identité, pour parler de ce que nous faisons, eh bien, nous allons vous livrer nos vraies identités. Vous ferez le tri des éléments que vous devez retenir pour comprendre d'où nous parlons, pour partager avec vous ce dernier moment.
Oui, donc un petit peu d'humour derrière vous, et puis finalement, voilà, des choses aussi auxquelles on tient. Rappeler donc pour ma part eh bien, que je suis anthropologue de formation, donc anthropologue comme discipline mère. Mes objets de recherche, la cour de récréation. Parfois, dans les colloques, on m'appelle Madame cour de récréation. Voilà, et puis bien sûr, j'ai l'honneur aussi d'être dans les rédactions de la revue de notre laboratoire, Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, et d'être accompagnée dans cette tâche par Henri Perroni et Jean-Yves Bauderia. Je suis aussi, pour me présenter encore, au CNU depuis 2011, j'aurai l'occasion de revenir sur ce CNU. Et puis on se demandait avec Marie-Pierre finalement pourquoi est-ce qu'on a été choisi pour faire cette conférence de clôture. Est-ce qu'on est légitime pour le faire? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne me sens pas une quelconque légitimité pour le faire, dans le sens où je n'ai pas du tout travaillé sur l'épistémologie de la discipline ou sur son histoire. Donc voilà, par rapport à la conférence d'ouverture qu'on a pu avoir par Rita Hofstetter, loin de moi l'idée d'être légitime. Je ne suis pas non plus très ancienne dans la discipline, arrivée seulement en 2003. Alors, peut-être qu'en tant que représentante du laboratoire CIRNEF, oui, alors là, j'ai le grand plaisir de clore ce colloque avec Marie-Pierre, puisqu'on vous accueille ici à Caen depuis mercredi. Et puis, sinon, est-ce que, quelque part, dans un inconscient de mes collègues, le fait pour moi que j'ai l'âge de cette discipline a eu une influence de ce choix? Ça, je n'en ai pas l'idée. Voilà. Ce que nous allons vous proposer, c'est un temps d'observation de la discipline, de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire tel que nous la vivons entre nous, tel que nous cherchons à la définir, et puis tel que les autres l'aperçoivent. Cette perception, nous amenons, il me semble, à la valoriser et à la raconter, pour mieux comprendre ce qui lui arrive aujourd'hui et tenter d'imaginer ce qui pourrait lui arriver demain, même si évidemment c'est plus un jeu qu'une prédiction, vous vous en doutez. Donc ce que nous allons vous proposer, c'est une conférence écrite à la double première personne, peut-être, deux fois jeu, c'est-à-dire depuis nos expériences respectives, Marie-Pierre l'a précisé un petit peu tout à l'heure déjà, pour donner à voir, ou plutôt assumer d'emblée l'enracinement de nos propos, de nos deux propos sur la discipline, selon nos deux itinéraires et nos manières de nous engager dans la recherche, et non des propos qui se voudraient en surplomb ou plutôt qui prétendraient avoir rationnellement fait le tour du sujet. Ce choix que nous faisons, et le terme même d'enracinement, se trouve aussi dans l'article rédigé par Bernard Charlot dans sa contribution à l'ouvrage qu'a dirigé Rita Hofstetter et Bernard Schnelli, le Paris des sciences de l'éducation. Et j'aurai l'occasion d'y revenir plus loin, mais je laisse tout de suite Marie-Pierre se présenter.
Donc, moi, les sciences de l'éducation sont ma discipline mère, de sorte à ce qu'il m'est assez facile que les autres disciplines des sciences humaines et sociales soient mes sœurs. J'enseigne à l'Université de Bordeaux et au sein de la faculté, alors c'est le nouveau nom à Bordeaux depuis l'autonomie pour parler des départements, on revient aux facultés, faculté des sciences de l'éducation, dont j'assure la direction depuis 2016. Cette faculté, elle est inscrite au cœur des sciences de l'homme, anthropologie, psychologie, sociologie et STAPS également. Je suis membre dans le laboratoire, une petite équipe de recherche, une différence avec le CIRNEF, qui s'appelle le CEDS, Culture et Diffusion des Savoirs. Et mes thèmes de recherche concernent d'une part la temporalité de la diffusion des savoirs, donc dans les pratiques enseignantes, et puis d'autre part la corporéité dans les pratiques de transmission et plutôt dans le champ artistique. Donc si moi j'ai été choisie aussi pour cette conférence, ce n'est pas non plus en fonction de mes objets de recherche, loin s'en faut. Peut-être par opposition à Julie, encore, ma caractéristique d'être, c'est marqué ici sur la diapositive, un pur produit des sciences de l'éducation est-elle peut-être un indicateur à retenir ? Alors, dans cette expression « pur produit », je me demande toujours si le pur est laudatif ou péjoratif. D'autant plus que, contrairement à de nombreux collègues qui ont passé des thèses, des qualifications en sciences de l'éducation, j'ai la particularité d'avoir exercé comme premier métier le métier d'enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. C'est-à-dire que je n'étais ni enseignante, ni éducatrice pendant de très longues années avant de pouvoir entrer en université. Et lorsque j'ai rédigé mon HDR, je me demandais comment écrire une introduction, toute celle que je lisais, retracer ce parcours initiatique du terrain à l'université. L'université fut ma première pratique et je pense qu'il est pour nous l'heure de l'assumer et d'en faire quelque chose. Voilà. Je sors de cette caractéristique une conviction très forte que j'ai dû recevoir de mes maîtres à Bordeaux, mais surtout des terrains de recherche qui sont les miens et de l'enseignement de ma discipline, j'y reviens. Cette conviction, c'est celle selon laquelle les sciences de l'éducation me semblent un domaine d'étude très important des sociétés, de leur fonctionnement et de leur mode d'avènement. En plein cœur des sciences sociales, donc. Alors, ce que nous souhaitions vous proposer, comme l'a rappelé Julie, c'est une conférence à deux voix, mais un double jeu dont on voudrait qu'il fasse nous. Pour préparer cet échange avec Julie, nous avons commencé à nous raconter nos parcours dans la discipline et, ce faisant, nos conceptions de la discipline. Ce sont bien ces échanges qui ont amené ces histoires de notre discipline et non cette histoire qui s'est imposée comme un objectif premier. D'où l'idée, finalement, qui nous est venue pour ce colloque et pourquoi pas faire de cette nécessité de se raconter nos histoires un objet pour notre propos au moment de clore ce colloque. Alors, pas pour raconter nos trajectoires, qu'elles soient typiques ou atypiques, mais plutôt pour raconter dans quel contexte elles ont été possibles et d'autres devront être possibles à l'avenir. Et surtout, peut-être pour s'autoriser, justement parce que nous ne sommes pas historiennes de la discipline, s'autoriser à raconter ces histoires, avec des petits H, pas forcément avec un grand H, ces histoires de ces 50 ans, on pourrait dire s'autoriser à être auteur, le mot serait mal choisi. On préférera ici narrateur ou narratrice pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, il y a maintenant un certain nombre d'auteurs de cette histoire des sciences de l'éducation. Je parle, à travers l'idée d'auteur, de ceux qui ont pris pour objet notre discipline. On peut faire allusion aux premières analyses de la constitution du champ, aux publications des manifestations anniversaires, aux multiples études épistémologiques, théoriques, méthodologiques ou encore biographiques qui ont été menées, ou encore à des publications qui se veulent plutôt de l'ordre du rapport sur le fonctionnement de notre champ professionnel. Notons encore qu'à côté de ces ouvrages, on trouve aujourd'hui, pour faire histoire avec un grand H, des expositions comme celle qui nous vient de Toulouse. Nous avons maintenant des visages et des figures, ou encore des extraits vidéo tels que ceux qui nous ont été donnés à découvrir grâce au travail de Nassira dans ce même colloque. Tous ces éléments-là nous laissent à penser qu'il y a aujourd'hui beaucoup de balises, beaucoup de repères dont nous pourrions nous saisir pour nous mettre à raconter, nous, de manière plus quotidienne, plus narrative, les trajectoires des sciences de l'éducation. J'en viens à la seconde raison de s'autoriser à raconter. Le fait de raconter notre histoire de la discipline est-il si courant dans nos métiers d'enseignant-chercheur en sciences de l'éducation ? Je me suis vraiment demandé si nous connaissions, nous, finalement, cette histoire. Pas la connaître comme un corpus de savoir, mais si nous l'avions intégrée, et notamment les nouvelles générations. Si nous la connaissions, en somme, comme une culture professionnelle. Il ne me semble pas qu'elle nous ait été racontée sous forme de cours, dans nos formations, dans les cursus de sciences de l'éducation. J'ai commencé en 2002 à Bordeaux, l'année où Bourdieu mourait et où Jean-Marie Le Pen arrivait au second tour de l'élection présidentielle. Je me souviens de ça, je ne me souviens pas de cours d'histoire de sciences de l'éducation. Je ne sais pas si quand tu es arrivée, Julie, en sciences de l'éducation, tes collègues du laboratoire ou du département t'ont raconté une sorte d'histoire de l'éducation pour les nuls, pour faire attraper ton retard. Je ne sais pas.
J'ai eu droit à quelques initiations, oui, heureusement.
Cela aurait-il été utile qu'une histoire se fasse au sens intentionnel ? Peut-être s'est-elle faite autrement, cette transmission-là. Je ne sais pas, mais si je fais mienne cette position de Wittgenstein à propos de la manière de fonder une discipline, enseignez-la, disait-il, et vous l'aurez fondée, je pose la question. Bien sûr, on sait que l'institution officielle des sciences de l'éducation commence précisément avec l'instauration de cursus, donc de l'enseignement. Mais dans ces cursus, on enseigne des choses et pas directement l'histoire de cette institution qui enseigne ces choses. En tous les cas, pas de manière peut-être encore homogène. Qu'en est-il de ce point de vue dans les autres disciplines, en sociologie, en psychologie, en anthropologie ? Il me semble qu'à minima, on connaisse les fondateurs. Quand bien même ce ne seraient pas les vrais fondateurs, mais peut-être ceux qui sont institués, ou les grands courants, ou les grandes dynamiques. Si de telles questions m'importent, c'est parce que nous savons combien nos remises en question dans notre section depuis 50 ans sont nombreuses. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de le revoir à ce colloque. Les thématiques des tables rondes, pour certaines, reviennent de manière très récurrente dans nos échanges scientifiques. Pour le coup, on peut se demander sérieusement si notre discipline ne gagnerait pas à ce que les résultats, conclusions, ou au moins espaces de position que les débats déjà menés à son propos ont permis de construire puissent être en quelque sorte intégrés à notre discours professionnel ou à notre culture, un discours qui, pour le coup, pourrait aller en se complexifiant, en se nuançant, voire en se révolutionnant, pourquoi pas, en tous les cas, qui ne serait pas condamné à refaire constamment le match, la même mêlée, pour un nouveau clin d'œil à nos amis toulousains. Voilà ce que nous nous sommes dit. 50 ans, le moment où l'on doit peut-être profiter de la masse des savoirs maintenant disponibles sur l'histoire des sciences de l'éducation pour la raconter au cœur de nos pratiques professionnelles sans être nous-mêmes autorisés à, par nos objets de recherche. En faire un sujet commun, en quelque sorte. S'autoriser à faire des histoires en petites tâches, s'approprier pour inscrire soi-même et les autres, ne pas être sûr de tout dire, mais ne pas s'arrêter pour autant, parce que la narration est beaucoup moins exigeante que la création, profitons-en. L'histoire que nous voulons vous raconter, elle se scandera ici en quatre temps qui ne sont absolument pas choisis au hasard, qui sont tout à fait ethnocentriques. Je travaille avec une anthropologue, je profite. Une naissance des sciences de l'éducation, au cours de laquelle nous avons bien vu que Bordeaux et Caen avaient largement contribué. Un colloque en 1992 qui se déroula à Bordeaux et dont on a déjà parlé dans ces trois jours. Un deuxième colloque cannais pour les 40 ans de la discipline. Enfin, une conférence de clôture bordelot-cannaise. Pas de hasard, vous l'aurez compris, nous assumons parler depuis nos positions et nous pensons que les lacunes, les trous, les vides de cette proposition seront autant d'interstices à investir pour que les histoires se racontent ensemble.
Donc, le contexte dans lequel naissent les sciences de l'éducation est aussi celui dans lequel j'ai grandi. Un contexte subversif, celui des événements de 68, une énergie peut-être, une vitalité peut-être propice à la naissance. J'aimerais revenir sur l'histoire essentiellement politique et sociale de la discipline, pour réfléchir à la place que l'on souhaite lui donner aujourd'hui et dans l'avenir au sein des disciplines et au sein de la société. comme le rappellent Nassira Egerassi et Henri Peroni dans l'introduction du numéro anniversaire des 50 ans, que l'on a publié dans notre revue « Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle », on peut percevoir deux inspirations, c'est votre terme, dans la naissance de la discipline, un peu à la manière, je dirais, de deux parents au caractère distinct et bien trempés tous les deux. D'un côté, Gaston Mialaret, qui a été très joliment évoqué par Marguerite Altay avant-hier, et une recherche, on l'a vu, inspirée, on le sait, des exigences des sciences dures, qui assoient la légitimité de la recherche sur une psychopédagogie expérimentale, qui s'inscrit, comme l'a rappelé Rita dans sa conférence mercredi, je dirais, moi, dans l'air du temps, enfin, c'est ce que j'ai cru entendre, c'est-à-dire que, finalement, c'est une approche qui est adoptée aussi par d'autres chercheurs en sciences de l'éducation ou en éducation en Europe à la même époque. C'est cet assis scientifique, à l'image des sciences dures, qui a permis, je vais y revenir, de convaincre les décideurs suite au colloque de Caen de novembre 1966. Une deuxième inspiration, donc, celle décrite par Guy Berger à Nassira et Egerassi, qui retrace dans un entretien la filiation alternative, selon cette expression, aux sciences de l'éducation, une inspiration issue de Paris 8 Vincennes, qui recrute des personnages un peu en marge, selon votre expression, qui veulent insister sur d'autres systèmes éducatifs, d'autres modalités éducatives à inventer avec les professionnels qui viennent y étudier. Ces options en rupture avec le colloque de Caen sont celles qui s'imposent au colloque d'Amiens de mars 68, comme le rappelle Henri Peroni. Pour revenir sur la naissance de la discipline, je partirai à nouveau de mon expérience, puisque c'est le fil rouge, je dirais la tonalité que l'on a choisi toutes les deux pour notre présentation. Et pour ce faire, je me contenterai de redonner les éléments clés qui ont entouré la naissance des sciences de l'éducation en 67, des événements qui, selon toujours votre introduction, Henri et Nassira, fait quasiment, vous dites, office de mythe fondateur pour notre discipline. Donc, cette idée de mythe fondateur, je dirais à l'anthropologue que je suis, forcément, l'idée de pouvoir participer aussi aujourd'hui à cette transmission orale de ce mythe d'origine me convient tout à fait. Donc, il y a 10 ans, on avait fêté à Caen les 40 ans de la discipline et nous avions invité Gaston Mialaret à ouvrir ce colloque. Je partirai donc de mon souvenir en me remémorant ce moment symbolique très fort, puisque Caen était son université, là où il avait créé ce cursus. Et un ouvrage était paru, on l'a signalé déjà suite à ce colloque, puisque Rita l'a évoqué avant-hier. La conférence de Mialaret avait été placée en ouverture du colloque, mais également du livre qui était paru et que nous avons republié dans la revue Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle en 2016, le numéro en son hommage. Ce numéro comprend également un entretien que Jean-Yves Boderga a mené avec Francine Best, qui contribue à éclairer le processus politique qui aboutit à la naissance de la discipline, dans un contexte où ce qui détermine la création de la discipline, c'est-à-dire d'une recherche et d'un enseignement universitaire dans le champ de l'éducation, est lié à cet enjeu de formation des enseignants, mais aussi à un enjeu économique qui suppose de montrer l'intérêt des recherches en sciences de l'éducation pour le développement du pays. Sur ce point de contexte et son épaisseur, Marie-Pierre me signalait qu'on peut se reporter aussi à l'introduction de l'ouvrage dirigé par Françoise Lahotte et Rebecca Rogers, Les sciences de l'éducation, émergence d'un champ de recherche dans l'après-guerre. J'aimerais reprendre donc quelques éléments de ces deux contributions que j'ai précédemment nommées, celle de Gaston Mialaret et celle de Francine Best, pour leur faire hommage d'abord et puis aussi pour revenir sur les origines de la discipline. Mais
Alors, c'est là que, pour vous raconter l'histoire de la création de cette histoire, quand Julie me racontait ça, à un moment, j'ai dit « Oh, d'accord, mais au moins mentionne que d'autres sources auraient pu raconter d'autres histoires, hein, forcément. » Alors, par exemple, peut-être le rôle de plusieurs autres acteurs importants qui ont été évoqués depuis 1962, mais Jean Housset en a dit quelques mots. Premier projet de licence de pédagogie porté par Jean Château à Bordeaux. Le projet en 1966 d'une licence de psychopédagogie qui a pu permettre peut-être que le premier projet qui avait avorté avec le mot de la psychologie, peut-être effectivement allait pouvoir être un peu plus visible et lisible et audible surtout. Bien évidemment, la contribution de ceux qu'on cite moins. Et en tant que bordelaise, je voulais évoquer la contribution de Jacques Witwer, qui fut nommé maître de conférence à l'Université de Bordeaux après une thèse avec Piaget. Et quand Chateau se retira du jeu assez rapidement après l'instauration de la discipline, Witwer fut vraiment un bâtisseur important. Voilà, c'est comme ça que j'avais dit à Julie, ok, d'accord, mais attention, donc à toi.
Voilà, bon, j'aurais pu aussi revenir sur des choses qu'évoque Niall Arey et qui précèdent ce que je veux évoquer, c'est-à-dire la période au moment qui précède la Première Guerre mondiale, le rôle d'Alfred Binet, l'entre-deux-guerres, la nécessité de repenser la manière de former cette jeune génération dans cet entre-deux-guerres porté par le mouvement d'éducation nouvelle. J'aimerais d'ailleurs pouvoir rappeler juste à cette occasion, pour mêler à nouveau la petite histoire et la grande, que notre revue porte, je vous le rappelle, comme deuxième partie de titre, le nom de Pour l'ère nouvelle, revue créée en 1922 justement par la Ligue internationale d'éducation nouvelle. Et puis, bien sûr, cette revue, Les sciences de l'éducation, Pour l'ère nouvelle, donc, qui a été créée en 67, la même année que la discipline universitaire. Donc, j'aimerais me centrer maintenant sur cet acte de naissance de la discipline, tel que donc Gaston Niall Arey et Francine Best l'ont retracé, à travers deux colloques qui ont eu lieu tous les deux à Caen et qui ont été décisifs pour décider les politiques à créer un enseignement de sciences de l'éducation à l'université, celui de 1956 et celui de 1966. Deux éléments décisifs, mais pas uniques, comme Marie-Pierre l'a rappelé, en évoquant donc les contributions de Chateau et de Besse à Bordeaux. Nous avions donc commémoré ces deux colloques l'an dernier, et à cette occasion, c'est à cette occasion que Francine Best justement est venue témoigner, signalant que en 1956, c'est à Caen, sur ce beau campus ici, tout récemment reconstruit, qu'avait été organisé ce colloque, qui portait sur l'enseignement et la recherche scientifique, et qui fut, comme le rappelle aussi Antoine Prot, un épisode décisif pour créer un dialogue entre les scientifiques, le monde des affaires et les hommes politiques, et pour que ces différents acteurs prennent conscience du rôle de la formation à la vie professionnelle. Donc du 11 au 13 novembre 1966, 300 participants, on le rappelle, sont présents au colloque, dont Francine Best et Gaston Niall Arey. Niall Arey qui défend avec brio, pour reprendre l'expression de Francine Best, et devant une assemblée, rappelle-t-elle, de mathématiciens et de physiciens difficiles à convaincre, la mise en place, donc il défend la mise en place d'un cursus universitaire de sciences de l'éducation, fondé sur une recherche rigoureuse, expérimentale et forcément pluridisciplinaire sur l'éducation. Quelques jours après le colloque de novembre 66, à Caen, a lieu ce que Niall Arey a appelé le coup de tonnerre du 30 novembre 1966, date à laquelle il a appris qu'il était convoqué, donc le 7 décembre, au ministère avec Maurice Debesse et Jean Chateau, qui n'a pas pu être présent. Et donc, c'est avec l'appui de personnalités de l'époque, Jean Stotzel et Paul Fraisse, les autorités ministérielles françaises ont donc finalement décidé de créer ce cursus universitaire de sciences de l'éducation. Et donc, comme on le sait, à la rentrée universitaire 1967, trois universités françaises, Bordeaux, Caen et Paris, ouvrent un cursus de sciences de l'éducation, plus exactement une maîtrise. Donc l'année suivante au colloque d'Amiens, en mars 68, peu avant les événements du mois de mai, Alain Guémard, secrétaire général adjoint du SNESUP, appelle les étudiants à se révolter contre les hiérarchies et les inégalités, mais aussi, comme le rappelle ici Francine Best, contre l'absence de formation professionnelle des enseignants. Pour conclure sur ces... Conclure, si on peut dire, pour terminer sur ces 40 ans, finalement, par rapport à cette naissance, plutôt, de la discipline, finalement, à l'âge de 7 mois, les sciences de l'éducation sont déjà identifiées par les décideurs et les médias comme une discipline née d'un souffle révolutionnaire, je dirais, en tout cas qui se construit dès son enfance, pour reprendre les propos de Bernard Charlot, une solide réputation de discipline politique, polémique, subversive. On pourra faire ici le lien direct avec la dimension d'indiscipline qu'avait mise en exergue Rita dans sa conférence, hein, et qui semble constitutive des sciences de l'éducation. Voilà. Point sûr.
Bien. Alors, retour à Bordeaux. Donc, c'est un second moment que j'avais à cœur de raconter, de partager. Il y a été fait à plusieurs reprises allusion. Cet événement des 25 ans de la discipline à Bordeaux et de l'ouvrage qui en est issu. Un ouvrage, disons-le d'emblée, qui est assumé dans sa dimension locale, 25 ans de sciences de l'éducation Bordeaux. Et parmi les contributeurs, 5 effectivement sont bordelais sur la douzaine que constitue l'ouvrage. J'ai d'abord cru à une sorte de chauvinisme aquitain, néo-aquitain, devrait-on dire maintenant, mais je me suis rendu compte que l'anniversaire qui suivrait, celui des 30 ans à Paris, que l'on a aussi déjà évoqué, avait cette même caractéristique locale, 30 ans de sciences de l'éducation à Paris 5 en plus. Voilà. Et à côté de l'incontournable présence de Mia Larrey pour les 25 ans, pour les 30 ans, pour les 40 ans, et puis là, par le témoignage de Nagui, dommage même pour les 50 ans, on trouve nombre de contributeurs qui, sur le colloque de Paris, sont encore des figures parisiennes. Alors, j'ai fait ce détour pour revenir à Bordeaux, mais préciser que lorsque j'écris ici dans ce titre « Dire sa place », je pense moins à une forme de revendication régionale qui s'impose qu'à la nécessité, si elle s'impose à plusieurs endroits, plus pragmatique pour les départements qui comptaient parmi les premiers à avoir des cursus en sciences de l'éducation, la nécessité finalement à cet âge-là, peut-être comme jeune adulte, de dessiner les contours institutionnels de ce qu'ils avaient créé du point de vue des formations. Et il n'est d'ailleurs pas étonnant de constater que l'avant-propos de l'ouvrage bordelais, écrit par Alain Janel, alors responsable du département des sciences de l'éducation, ne consiste pas en une grande entrée en matière, un petit peu voilà, tonitruante, mais tout simplement par un ensemble de dates qui rappellent très concrètement comment se sont construites les choses. J'ai toujours une grande affection pour ceux qui bâtissent en pédagogie, ceux qui bâtissent dans l'ombre avec des éléments un peu factuels. 1967, nous étions affiliés à l'UFR des psychologistes. En 1969, que nous sommes devenus indépendants, 71 pour la maîtrise, 74 DEA et DUSP, et puis on voit dans les années, fin des années 87, 88, 90, des options qui se précisent. D'un côté, les formations plutôt dédiées au secteur de l'enseignement classique et la formation d'adultes qui est en train de prendre ses quartiers à Bordeaux, et c'est important de le signaler, jusqu'à 90, l'ouverture d'un DESS qui va fêter ses 30 ans. En 1992, à la date du colloque, notre département comptait 800 étudiants. Et je dois dire que finalement, j'ai été assez étonnée de me rendre compte que, mis à part une licence professionnelle et bien sûr de nouveaux parcours, des partenariats, l'essentiel de notre structure d'enseignement était posé. Toujours dans cet avant-propos d'Alain Janel, je voudrais vous rapporter ces quelques phrases à propos de ce qui s'y déroulait. Ces enseignements délivrés au département insistent sur la formation personnelle de l'étudiant, sur la transmission des connaissances et sur la préparation à une activité de recherche dès la licence. Alors, nous n'avons pas le mot compétence, ni l'insertion professionnelle, ni l'aide à la réussite. Et c'est vrai que pour les jeunes enseignants-chercheurs, c'est agréable de se rendre compte qu'il a pu en être autrement, même si on le savait. Et pourtant, les étudiants et le souci de leur formation sont particulièrement centraux dans cet ouvrage, et c'est cela que je voulais mettre en avant. On remarque à Paris également, la question des publics constitue un des chapitres hein, de l'ouvrage. Donc, c'est dire que la préoccupation était forte et que, par exemple, la ECSE a toujours eu des commissions, cursus publics, etc. Donc, Cette question des publics est importante, je vais y revenir, et la question aussi des types de formation et ces deux grands axes que je veux vous proposer où la formation d'adultes véritablement s'impose. Bien sûr, on trouve aussi une partie historique, une partie épistémologique, avec quand même, je le dis, parmi les quatre conférenciers de cette partie épistémologique, Georges Vigarello, qui intervient sur la notion de discipline et sous-discipline. Alors après, on aura à 40 ans les contributrices, aujourd'hui les disciplines sœurs, donc c'est pour vous dire que ce débat rebondit, ou Jacques Arduano sur l'approche multiréférentielle des situations éducatives et formatives. Là aussi, on ne cesse de renouveler ces discussions. Revenons donc à la question des publics, si vous voulez bien, je voudrais prendre le temps de développer deux idées qui me sont chères à la lecture de cet événement bordelais. Le premier, la présence des étudiants au cœur des préoccupations du département des sciences de l'éducation à leurs 25 ans d'existence. De deux manières. D'abord, quand on lit les contributions des auteurs, ils sont plusieurs à proposer des analyses ou des entrées par les publics. Je pense par exemple à Michel Bataille qui réalise une petite étude statistique tout à fait intéressante qu'il présente comme modeste mais qui montre déjà les effets produits en 92 du rajeunissement des publics sur les bancs des sciences de l'éducation sur le type d'enseignement que l'on peut y produire. Je pense qu'aujourd'hui on est en plein dans ce type de questionnement. Et puis, la question des publics est aussi véritablement prise comme entrée par Pierre Clanchet sur une conférence. Je fais un peu de teasing parce que ça sera mon deuxième point, j'y reviendrai après. Reprise d'une manière tout à fait inédite de mon point de vue. Et pourtant, cet article a déjà 25 ans. D'autre part, les étudiants sont aussi présents dans cet ouvrage comme auteurs. On leur donne la parole, ils apparaissent véritablement comme auteurs et quelques pages de commentaires permettent de voir comment eux ont vécu ces 25 premières années en sciences de l'éducation. Alors eux, pas tous, on va voir. Promotion 1970, au lieu du « écoutez, je parle », il y avait plutôt du « je parle à partir de quelque chose que je cherche, que je ne possède pas tout à fait, qui n'est pas tout à fait ». Nous abandonnions certains savoirs d'évaluer pour d'autres, sans les douleurs d'une perte, avec la joie de découvrir des nouveaux savoirs construits dans l'échange. 1975, c'était un lieu où l'on tenait compte de la personne, de l'humain, époque d'engagement, de solidarité. Il y avait un souci de la chose sociale et politique. Ce langage nouveau donnerait des ailes à la pensée. Une immense envie de chercher, libre et protégé dans son questionnement sur les interdits. 1980. Ce que je cherchais en arrivant en sciences de l'éducation, je n'en sais rien, ou alors je l'ai oublié. Ce que je sais par contre, c'est que dans ce lieu, j'ai fait de multiples découvertes. Abandonner avec joie des savoirs plutôt que de les cumuler ou de les créditer. Chercher de manière libre et protégée jusqu'aux limites de l'interdit. Conquérir autre chose que ce que l'on était venu chercher, si tant est qu'on se souvienne même de ce dont il s'agissait. L'enseignant-chercheur que je suis et qui n'était pas né à l'époque de ces propos sourit à cette lecture. Car si bien sûr nos étudiants actuels ne ressemblent pas à ceux qui apparaissent ici, je pense pourtant que quand j'enseigne, et ceci est quelque chose qui s'est transmis à Bordeaux en tous les cas, j'espère que ce type de propos, de pensée, de position, peut toujours être possible pour eux, pour mes étudiants. Et parfois même, j'ai la prétention de croire que c'est le cas. J'oserais ainsi poser la question, non sans un clin d'œil à la table ronde sur la pédagogie et la didactique, les traditions pédagogiques se seraient-elles transmises insidieusement dans nos facultés respectives, et si oui, comment ? Alors, il est à noter, bien sûr, que ces étudiants qui sont venus d'exprimer, ils avaient sans doute été sélectionnés, et qu'ils venaient intervenir face à des chercheurs sans leur père. Donc, pour faire contrepoint, je vous propose l'analyse plus sévère d'un étudiant de 1991, qui est donc étudiant en même temps que se tient le colloque. Voilà. Le reproche de ce panel est qu'il se devait d'être positif en soi, en tant que commémoration, c'est la moindre des choses. Mais il fut désespérément positif. Il eût été intéressant que ce panel se fasse devant un amphi accueillant les étudiants de licence et de maîtrise de cette année. Cela aurait peut-être tout changé, et les interventions auraient été sans doute plus nuancées.
Mais je suis content d'y avoir participé. Je vous pardonne, nos étudiants sont charitables. Assistions-nous ainsi à un effet de panel, comme le déclare cet étudiant, ou bien à celui d'un changement d'époque sur les bancs de nos amphithéâtres, où l'on commençait à sentir que les choses prenaient une nouvelle tournure dans les formations de sciences de l'éducation. Ce qui est sûr, c'est que certains commentaires produits par les enseignants eux-mêmes et présents dans cet ouvrage laissent tout à fait songeurs et même jaloux, c'est un mot à la mode pour les fonctionnaires, les générations d'enseignants-chercheurs actuels. Voilà ce que raconte Gilles Dumas. Il s'appelait Gilbert, mais il préférait qu'on l'appelle Gilles, enseignant en sciences de l'éducation, philosophe et féru de psychanalyse, et à qui nous devons beaucoup à Bordeaux, à propos des premières années d'enseignement pour lui au sein du département. Ce dont je me souviens, et qui demeure contre vents et marées, est ce projet tenace de nous donner du temps. Du temps pour réfléchir sur nos expériences, nos pratiques, nos implications. Du temps pour mieux entendre ce qui se joue chez ceux qui ont le désir d'apprendre, de savoir, de faire savoir. Du temps pour qu'émerge quelque chose de ce qui se noue dans ces rapports au savoir. Du temps pour se risquer à théoriser, à élaborer une distance suffisamment bonne dans notre relation afin que nos pratiques ne restent pas un métier impossible. Aurions-nous donc des choses à reconquérir de ce point de vue ? J'aimerais. C'est bien une question qui nous occupe, que le temps nous serait précieux à l'heure où nous ne prenons plus celui d'attendre et de s'écouter, parfois sûrement pour aller renseigner des tableaux Excel en vue de pilotage. Le deuxième point que je souhaitais partager sur ce moment des 25 ans de l'histoire qui me fut importante est le texte de Pierre Clancher paru dans cet ouvrage. Approche solidariste et approche objectiviste en sciences de l'éducation. C'est un texte, je pense, qui mériterait d'être relu. Pierre Clancher y part de quelques constats que peut-être vous partagerez. D'abord, il disait que quand on l'interrogeait sur son métier, et en particulier sur ceux qu'il enseignait, il répondait plutôt à partir de à qui il enseignait. Instituteur, professeur, conseiller d'éducation, infirmiers, cadres infirmiers, travailleurs sociaux, animateurs socioculturels, formateurs d'adultes, et, je le cite encore, voire ratons laveurs remettant en cause leur pratique caudale. Voici mon hypothèse, poursuit-il dans ce texte. Un trait distinctif commun à nos départements, au-delà des différences liées à leur culture propre, serait qu'ils se définissent plus par les caractéristiques spécifiques du ou des publics qui les fréquentent que par les objets qu'on y étudie. Les étudiants de sciences de l'éducation ne viennent pas pour étudier des matières qui seraient des sciences, mais ils viennent avec des paquets d'interrogations, de déceptions, d'espoirs, concernant des activités plus ou moins professionnelles dans lesquelles ils sont, ont été investis, ou plus récemment, vers lesquelles ils aspirent. Pierre Clancher, pragmatique aussi, en bon wittgensteinien, se demande d'abord s'il faut lutter contre ces bonnes ou mauvaises raisons. Bonnes parce qu'elles conduisent les étudiants à venir chez nous. Elles les motivent, elles les meuvent, elles les font bouger. Mauvaises parce qu'elles peuvent les aveugler ou, au contraire, s'il faut faire avec et tenter, je le cite, de les faire passer plus ou moins en douceur de la conviction à l'opinion juste et à l'opinion juste accompagnée de raison, pour reprendre les termes platoniciens du thé et tête. Et très vite, Pierre Clancher accomplit un pas de plus en disant qu'en réalité, il conviendrait bien plutôt de réfléchir à cette spécificité de nos départements pour poser la question de la scientificité de notre discipline autrement que comme on le fait d'habitude. Comme on le faisait d'habitude en 1992 et comme je pense qu'on continue à le faire de manière habituelle. Alors que fait-on d'habitude ? Voici ce qu'il dit. On discute du rapport aux disciplines académiques, sociologie, etc. Sont-elles mères, sœurs ? Ces discussions sont importantes, dit-il, la multiréférentialité, la transdisciplinarité, mais laisse insatisfaite la tentative de nous spécifier de son point de vue. Deuxième habitude, celle de replacer ces premières discussions au cœur d'oppositions classiques entre objectivité, subjectivité ou science dure, science molle, je le cite. En fait, Pierre Clancher propose un pas de côté et je crois que c'est une constante de sa position. En tant qu'enseignant aussi, il nous faisait toujours faire des pas de côté, il nous mettait des choses dans les pattes qui nous obligeaient à faire des pas de côté, une sorte de pédagogie du détour. Et il mettait dans nos pattes des auteurs comme Richard Rorty, philosophe américain néo-pragmatique élevé dans une famille admiratrice de John Dewey. Je ne me risquerai pas, faute de temps et de compétences, à une description fine de Rorty et de son œuvre, en particulier de la manière dont il se positionne face au modèle galiléen de rationalité scientifique, qu'il admirait, mais qu'il ne souhaitait pas voir se développer partout de manière ininterrogée. Mais aussi face à l'opposition devenue classique entre expliquer et comprendre, celle de Dilthey, ou encore entre facts et values, Humes. En wittgensteinien, encore Wittgenstein, Rorty était wittgensteinien, Wittgenstein a un fantôme qui doit voler sur Bordeaux, je pense. En bon wittgensteinien, voilà ce que Rorty avançait, que les sciences sociales sont porteuses d'un espoir social, et que notre but en tant que chercheurs, alors la position est radicale mais mérite vraiment d'être entendue parce qu'elle donne matière à penser, est de se faire l'interprète de nos semblables auprès de nous, éveillant et approfondissant notre sens de la communauté. La tension que pointe ici Rorty est nouvelle, parce que c'est une tension non pas entre subjectivité et objectivité, mais entre solidarité et objectivité. Le solidarisme rortien mériterait d'être plus développé, mais pour en dire quelques mots encore, disons que les solidaristes, voilà comment ils se présentent, racontent l'histoire de ce qu'ils ont apporté à une communauté. On raconte des histoires, tu vois, en fait on est solidariste. Considèrent la vérité, en référence à William James, comme ce qu'il est bon pour nous de croire et n'ont pas nécessairement besoin de penser une relation entre les croyances et les objets qui soit une relation de correspondance. Dernière caractéristique que je citerai pour eux, être rationnel veut dire être sensé ou raisonnable. Rationnel renvoie plus au sens de civilisé qu'à celui de méthodique. Renvoie à la nécessité de discuter de toutes sortes de sujets, de telle sorte que le dogmatisme, la surdité intellectuelle ou l'indignation vertueuse soient exclus. J'en viens, pardonnez-moi, à ce qui nous intéresse pour faire histoire dans les sciences de l'éducation, et je donne un peu longuement maintenant la parole à Pierre Clanchet, ce sera mon dernier développement pour les 25 ans. Il m'est apparu, dit-il, que l'opposition solidarité-objectivité pourrait servir de paradigme pour analyser la position actuelle des sciences de l'éducation du point de vue de la recherche et de l'enseignement, et que pour peu qu'on la dialectise, elle permettrait de rendre visibles et théorisables nos spécificités et nos différences intra et inter. Je crois personnellement que leur éthique, l'éthique des sciences de l'éducation, est structurellement et historiquement solidariste. Peut-être est-ce ça qui a réuni ces contributeurs de 67 si hétérogènes. Sinon, elle n'aurait pas de raison d'être en tant que discipline autonome dont le champ est essentiellement hétérogène. Au lieu d'être des solidaristes contris, n'aurions-nous pas à affirmer un solidarisme offensif et vigilant ? Mais en même temps, je pense, en normant que je ne suis pas, il devait savoir que je viendrais faire cette conférence ici, qu'il est absolument nécessaire qu'à l'intérieur de chacune des instances, départements, CSE, AECSE, CNU, il y ait des objectivistes convaincus, mais courtois. En somme, je pense qu'il est nécessaire de dialectiser au sens fort solidarisme et objectivisme, sous peine de sombrer dans un manichéisme qui nous attirerait les foudres de tous bords, de ceux qui nous intiment l'ordre de nous consacrer au seul didactique, mot fétiche qui cache souvent une rupture pure et simple, une pure et simple reprise en main positiviste des sciences de l'éducation, la critique a déjà été faite il y a quelques jours, comme de ceux qui veulent nous cantonner dans un impressionnisme humanisme, touche à tout et bouche trou. De sortir des faux débats entre sciences dures et pédagogisme, je pense que la chose est possible depuis déjà 25 ans. Alors je vous laisse découvrir ou redécouvrir la manière dont cette dialectisation peut être entreprise pour Pierre Clanchet. Je vous remets ici simplement le début de la citation que je viens de vous faire. D'une part sur le terrain de nos enseignements et d'autre part sur celui de la recherche. Je voudrais juste dire que je partage avec lui cette conviction que j'aimerais insuffler à mes doctorants et à mes étudiants plus largement, celle selon laquelle notre exigence objectiviste et courtoisie solidariste doivent constituer une sorte de marchepied mutuel et ensuite profiter de cette conviction pour aller de l'avant, cesser les débats qui peuvent être résolus et se positionner sur les terrains de l'éducation traditionnelle qui sont aujourd'hui investis par d'autres approches moins soucieuses de rigueur épistémologique. De la même manière, d'aller sur les nouveaux terrains de l'éducation qui sont nombreux et de les investir de manière ouverte et solide.
Alors, nous voici arrivés aux 40 ans, l'âge de la majorité. Ah oui, bien passé déjà, mais peut-être de la maturité. En tout cas, c'était le point d'interrogation qui... C'était cette allusion à l'âge de la maturité qui était une partie du sous-titre, je vais y arriver, du colloque, puis de l'ouvrage que nous avons donc publié à Caen pour les 40 ans et qui faisait donc déjà référence, comme on cherche à le faire Marie-Pierre et moi, aux âges de la vie humaine. C'était aussi l'occasion... comme dans la vie d'un individu, finalement, de regarder ce qui est derrière nous, l'âge du bilan, en faisant le point sur notre lien de filiation avec nos disciplines mères, notamment, c'était donc la sociologie, l'histoire, la psychologie, la philosophie. Et comme le souligne Alain Vergnoux dans sa présentation du chapitre intitulé « Maturité et dépendance » dans cet ouvrage issu du colloque, les soubassements théoriques et méthodologiques des sciences de l'éducation sont issus de ces disciplines mères. Et nous avions voulu regarder si la naissance des sciences de l'éducation avait amené les quatre disciplines mères nommées à définir de nouveaux objets, à poser des questions inédites, à faire évoluer leurs méthodes. Et puis, corollairement, nous avions analysé comment les chercheurs issus de ces quatre disciplines et rassemblés au sein des sciences de l'éducation depuis 40 ans ont repensé leurs questions, leurs élaborations théoriques, leur méthodologie pour se pencher sur les questions d'éducation non plus depuis leur discipline mère, mais au sein des sciences de l'éducation avec une certaine autonomie, en faisant de ces disciplines, pour reprendre le terme de Rita Hofstetter, peut-être des disciplines sœurs. À cet âge pivot, il s'agissait de faire le point sur nos héritages et sur ce que l'on souhaitait ou ce que l'on était en capacité de transmettre. Nous nous étions aussi interrogés sur le fait que des étudiants sont formés depuis 40 ans, maintenant depuis 50 ans, en sciences de l'éducation et qui, de fait, devient, comme pour Marie-Pierre, leur discipline mère. Comment, de ce fait, les sciences de l'éducation se sont-elles constituées une nouvelle identité? Comment intervient, pour certains doctorants qui ont fait une partie de leur cursus hors des sciences de l'éducation, cet autre héritage? Comment, pour d'autres, ayant d'autre part une carrière professionnelle, c'est l'héritage de la discipline, enseignant par exemple, comment se construisent-ils leur identité spécifique, etc. Je signalerai que l'héritage reçu se transforme encore récemment puisque, vous le savez, sur l'injonction du ministère, on a créé des licences première et deuxième année pour arrêter ces licences suspendues. Et chez nous, en tout cas à Caen, la première génération d'étudiants ayant suivi un cursus complet en sciences de l'éducation et cette année en master 1, première année, je ne sais pas si certains sont là ce matin. Voilà, donc quels effets a ce changement en termes de formation pour eux? Et puis bien sûr, on peut se poser la question, quels effets cela a pour la reconnaissance de la discipline? Est-ce, du point de vue de cette reconnaissance, un signe d'hétéronomie de la discipline, sommée de se ranger à l'âge de la cinquantaine, de rentrer dans la norme, qui est celle des autres disciplines, avoir un cursus en première année, au risque d'y perdre ce qui faisait peut-être sa force, sa vitalité, son énergie interne? Ou bien est-ce un moyen de gagner encore en autonomie? Peut-être que le colloque des 60 ans nous éclairera sur ce point. Ce dont on peut témoigner dès maintenant, c'est que la discipline est, il me semble, fragilisée, en tout cas c'est ce que je vois autour de moi, par la fatigue de ces enseignants-chercheurs, soyons très pragmatiques. Voilà, on a créé deux années supplémentaires à moyens souvent constants, sans recrutement, et donc on doit faire face à une surcharge de travail préjudiciable aux étudiants, préjudiciable à nos recherches, peut-être préjudiciable, j'en sais rien, au moment de colloque, mais je pense que quand même on a eu la chance d'avoir pu avoir beaucoup de monde et beaucoup d'échanges, malgré nos charges de travail, justement. Voilà, donc... La création de ces cursus complets pose aussi des questions de fond sur le bien fondé du principe même d'étudiants arrivant en sciences de l'éducation de l'éducation sans avoir été formé ailleurs. Voilà, est-ce qu'on est là sur quelque chose quand la discipline a été créée en 67 et avec un début de cursus au niveau L3, l'idée était précisément d'alimenter scientifiquement la réflexion éducative sur la base de disciplines constitutives et voilà, notamment celle. Donc, en tout cas, cet apport extérieur demeure malgré tout, on peut dire, en partie peut-être du fait que dans nos L1 et L2, on a quand même cette dimension pluridisciplinaire, notamment parce qu'on les a normalement construites avec d'autres départements. Voilà, ça sera tout pour cette évocation. Alors, des 40 ans.
C'est précisément dans la continuité de ces considérations, on l'aura compris, qui redeviennent plus pragmatiques, techniques, nos formations, en fait, que se pose la question de 2017 et de ces 50 ans. Nous n'avions aucun ouvrage anniversaire à analyser. On a bien essayé d'imaginer à quoi ressemblerait celui-là. Et pourtant, on voulait quand même dire un mot de 2017 en lien avec ce que vient dire Julie et toujours en lien avec cette idée de raconter ce qu'est pour nous la discipline. Et elle est ce que nous donne à voir nos positions respectives. Et il y a un protagoniste, quelque chose qui n'avait pas été abordé jusqu'à présent et qui là nous semblait devoir être abordé. C'est la question des instances auxquelles nous devons rendre des comptes. Je suis directrice de faculté, je vous l'ai dit, je suis donc au niveau local et je mesure l'effet de l'autonomie des universités. Je mesure maintenant le travail local que j'ai à faire pour que vivent mes formations et même ma discipline de recherche. Je ne vais pas véritablement parler parce que les contextes locaux sont si différents aujourd'hui que ça risquerait de ne pas être partageable, mais c'est dans cette même idée de parler de nos instances qu'au niveau national, Julie a peut-être aussi des choses à partager sur deux instances que je te laisse présenter.
Oui, c'est ça, deux institutions, peut-être deux outils qui sont, je pense, pour la discipline, comme en tout cas dans mon expérience personnelle, des moyens à notre disposition pour nous faire entendre, pour travailler notre légitimité, mais aussi des espaces pour discuter de ce que notre communauté veut faire de la discipline. Donc, l'une de ces institutions s'inscrit sur le long terme, c'est le CNU, et puis l'autre, en tout cas c'est les deux que j'ai choisis, l'autre c'est le rapport Alliance Athéna, qui est donc lié à une actualité, qui nous a été imposée, mais dont on a su, enfin en tout cas c'est mon point de vue, dont on a su se saisir en participant très largement à son écriture, et qui de plus peut-être, plus qu'un rapport commandité, peut-être selon ce que l'on souhaite en faire à l'avenir. Donc le CNU, pour la petite histoire, je suis entrée au CNU dans la promo précédente en 2011 sur les conseils d'Henri Péroni pour y parfaire ma socialisation dans la discipline après 8 ans d'intégration, ce qui je crois a assez bien fonctionné. J'ai aussi pu mesurer les enjeux politiques qui tournaient autour de cette institution et puis comment elle participait à la reconnaissance de la discipline. Ce qui m'intéresse de présenter ici, c'est la manière dont les membres du CNU 70e dépassent, il me semble, les missions qui lui sont confiées pour servir la discipline comme ils l'entendent. Sur le site du CNU, on voit ses missions officielles. Le CNU se prononce sur les mesures individuelles, je cite, relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Point. Ce qu'on peut dire, c'est que par ses missions, le CNU apparaît d'abord comme un outil au service du ministère pour la gestion de son personnel. Mais les membres de la section CNU 70e, en tout cas, se saisissent de cet outil et se donnent eux-mêmes pour rôle de défendre leurs intérêts. Peut-être que la pertinence syndicale des membres élus explique en partie ce fait. Plus largement, il me semble que c'est la position même du CNU en tant qu'interlocuteur auprès du ministère qui explique l'engagement de la section dans des fonctions supplémentaires qu'elle se crée. Actuellement, donc, la section CNU travaille à 70e travaille à définir les tâches qu'elle se donne, à communiquer auprès de sa communauté sur ces tâches afin d'être identifiée comme interlocuteur des deux côtés, par les instances politiques et par les enseignants-chercheurs en 70e. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a mis dans vos pochettes des petites informations à propos de cette communication que le CNU cherche à faire auprès de sa communauté. Je résumerai d'ailleurs quelques éléments que l'on trouve dans cette petite maquette qu'on a conçue pour montrer ce que l'on souhaite faire entre nous et puis ce que l'on souhaite faire en interaction avec l'extérieur. Le lien entre les deux nous permettant finalement, si on fait des choses entre nous, d'être fort ensuite et de savoir ce qu'on veut faire avec cet extérieur. Entre nous, je résumerai en retenant qu'on travaille une épistémologie des sciences de l'éducation, on en a suffisamment eu la preuve pendant ce colloque, et puis concrètement qu'on peut agir pour la structuration du milieu scientifique des sciences de l'éducation, et cela à côté d'autres instances, les unités de recherche bien sûr, l'HCERS, les associations telles que la FCSE, on le sait. Par exemple, voilà, identifier les supports de publication référencés à HCERS comme élément important malgré tout. Et puis, dans sa relation avec l'extérieur, je retiendrai le fait de construire une politique scientifique et de formation dans le domaine, en collaboration avec le ministère, la CPCNU, l'HCERS et l'ANR notamment. Concrètement, le CNU conduit des actions en faveur de la discipline auprès des pouvoirs publics. Par exemple, elle peut envoyer des courriers à des chefs d'établissement face à des situations délicates, publier dans la presse et contribuer à des rapports. Voilà, il me semble qu'à l'heure où parfois les pouvoirs publics remettent en cause l'utilité et l'existence du CNU, sa disparition constituerait une vraie menace, il me semble, du fait que ce Conseil national des universités est une réelle instance qui permet de défendre la discipline. Alors, deuxième élément sur lequel je voulais donc insister, c'est ce rapport Athéna. Donc, les alliances comme une nouvelle instance, donc, telle qu'il en est créé régulièrement, et qui pourrait peut-être nous déposséder de notre objet, l'éducation, si nous n'avions pas été au cœur de son écriture. Je vais y revenir, mais j'aimerais d'abord juste replacer ce rapport au sein de quatre autres rapports parus ces derniers mois et qui... que j'ai ici cités, qui n'ont pas tous les mêmes ambitions. Hein, on voit bien que les deux premiers, mais qui témoignent tous, je dirais, des enjeux autour de la formation et de la recherche en éducation et des acteurs en présence. Donc deux autour de qui visent l'amélioration et l'enseignement à l'école, et puis donc trois qui visent à savoir qui fait de la recherche en éducation et en France et sur quoi. Donc le troisième, le rapport de l'Alliance Athéna. Sur la recherche sur l'éducation, vous savez, à trois volumes. Le premier sur les éléments d'une stratégie globale. Le deuxième, où on a la contribution de tous ces chercheurs, plus de 80, hein, dont beaucoup sont en sciences de l'éducation. Et Marie-Pierre et moi, pour la petite histoire, puisqu'on fait allusion au fil de cette communication à cette petite histoire, ont pu participer à cette écriture. C'est aussi pourquoi on a voulu insister sur ce rapport dans notre conclusion.
Et nous sommes même côte à côte dans le rapport.
C'est vrai. C'est dire qu'il y a quelque chose qui nous destinait à être côte à côte aujourd'hui. Une écriture qui vise à présenter ce qui se fait comme recherche en éducation et qui participe, il me semble, à l'écriture de la culture commune dont parlait Bernard Charlot, sans doute pas que lui, mais au moins Bernard Charlot. Et puis, vous savez peut-être, le troisième volume est maintenant en ligne avec la bibliographie qui correspond aux références du deuxième volume. Donc, la contribution de la discipline sciences de l'éducation à ce dernier rapport est centrale. Et je voulais aussi remercier très sincèrement et très chaleureusement Brigitte Albéraud, qui a joué un rôle important dans la conduite de ce rapport et puis qui mène aussi un travail absolument admirable pour les sciences de l'éducation en tant que présidente du CNU. Ce rapport permet d'une part de comprendre et parfois de deviner entre les lignes, c'est l'impression que j'en ai en tout cas en le lisant, comment se posent aujourd'hui les relations entre notre discipline et les disciplines voisines qui traitent également de l'éducation. Il permet d'autre part de constater la richesse et la diversité des recherches en éducation, et comment les évolutions récentes des recherches non issues des sciences de l'éducation doivent nous amener à réfléchir aux relations que nous souhaitons entretenir avec ces disciplines voisines. Je vais préciser ensuite, c'est du moins l'analyse personnelle que j'en fais. Je vous livre donc les éléments suivants que j'interpréterai à ma manière, et j'invite surtout chacun à lire ce rapport, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, voilà, ce qui me semble vraiment fondamental pour comprendre peut-être à quel tournant nous en sommes dans l'histoire de notre discipline. Juste deux petites choses, donc concernant la place des sciences de l'éducation dans les recherches sur l'éducation, il est indiqué que les laboratoires en sciences de l'éducation représentent 38% des laboratoires impliqués dans les recherches portant sur les questions d'éducation, 20% à peu près, un peu moins de 20% pour la sociologie, l'économie et l'histoire, 7% pour les sciences du langage, 11% pour les sciences de l'information et de la communication et 17% pour la psychologie et les sciences cognitives. Sciences cognitives, ce dernier secteur, on le sait, a pris un essor important ces 15 dernières années, et en particulier en son sein les neurosciences. Et celles-ci, on le voit, on le sait, hein, on l'observe, occupe une place importante dans la sphère médiatique, notamment, hein, provoque, il me semble, une sorte d'engouement des pouvoirs publics, même si ces derniers restent aussi demandeurs d'autres sortes d'approches. Mais il me semble qu'elles répondent, ces neurosciences, à un désir jamais assouvi de mesurer et de trouver des remèdes à des maux qui existent depuis qu'existe la relation d'éducation et d'apprentissage, hein, et qu'elles supposeraient, à mon avis, peut-être une alliance des neurosciences avec les disciplines des sciences humaines, si c'était imaginable, sous quelle forme, à voir, pour réussir à nous aider à comprendre comment est-ce qu'on fait société. Voilà. Est-ce que ça fait partie d'un projet qu'on aimerait défendre, bon. En tout cas, dans la présentation que fait Daniel Adler sur l'apport des sciences cognitives à l'éducation, cette alliance, il me semble, avec les sciences de l'éducation, mériterait éclaircissement. Il écrit, je le cite, « Les dimensions sociales, politiques, culturelles de l'éducation ne sont plus considérées comme échappant au regard des sciences cognitives, même si celles-ci ne prétendent pas se substituer aux sciences sociales directement concernées. » Je me méfie toujours des formules où on ne dit qu'on ne prétend pas faire quelque chose. Je constate pour ma part qu'elles occupent pourtant le terrain en détournant l'attention des médias, je l'ai signalé, en focalisant l'attention et les financements de la recherche sur la question des apprentissages. On constate qu'aucun LABEX, programme laboratoire d'excellence, retenu sur l'éducation lors des deux appels lancés en 2011 et 2012, trois projets par contre sur l'apprentissage, tous les trois relevant des sciences cognitives et sciences du langage. De même, dans les projets retenus par l'ANR, ceux centrés sur les apprentissages et émanant de la psychologie, des sciences du langage et des sciences cognitives ont une place prépondérante. Je voudrais m'arrêter, juste pour terminer, sur une contribution, ou presque terminer ma prise de parole avant de redonner la main pour la conclusion de la conclusion à Marie-Pierre, sur une contribution du volume 2 de ce rapport qui permet un bon éclaircissement sur la place des sciences de l'éducation dans les recherches en éducation. C'est la contribution de Joël Lebaume, je ne sais pas s'il est encore avec nous, contribution sur les laboratoires de sciences de l'éducation. On sait qu'il a été, on peut l'en remercier d'ailleurs, qu'il a été aux premières loges finalement pour observer la vie des laboratoires en tant que délégué scientifique, représentant de l'AERES puis de l'HCERES, au pilotage des comités de visite pour l'évaluation des laboratoires. Et donc il témoigne du paysage des sciences de l'éducation, de ces laboratoires, de 2011 à 2016. Il indique notamment qu'il existe donc aujourd'hui 36 laboratoires en sciences de l'éducation, 4 fois moins qu'en 1998, environ 1000 chercheurs. Et voilà, je vous invite aussi d'ailleurs à lire non seulement ce qu'il écrit dans ce rapport, mais aussi son article dans le numéro anniversaire que notre revue Les sciences de l'éducation pour la nouvelle publie tout de suite là, et que vous avez pu voir sur les tables. Joël Lebaume insiste aussi sur les fortes transformations de nos activités de recherche et de l'organisation de notre travail du fait des réformes institutionnelles qu'a connues la recherche en France depuis les années 1980, écrit-il. Je rappellerai encore quelques éléments qui me semblent avoir un impact direct sur l'équilibre et les rapports de force entre les disciplines qui traitent d'éducation et qui sont rappelés en partie hein, dans le premier volume du rapport Athéna, qui s'appuie, vous l'avez peut-être vu en le lisant, sur deux rapports précédents, celui de Marie Durubela de 1999 et d'Antoine Pro de 2001. Et on se rend compte finalement, enfin, moi, c'est mon impression, que la discipline vit finalement au rythme effréné des structures qui apparaissent et disparaissent, qui se multiplient, qui nous obligent à chaque fois à nous positionner, à rebondir, et encore une fois à nous faire entendre pour dépasser ce qui est demandé dans notre manière de les investir. Je me contenterai juste de les énumérer sur les préconisations qu'Antoine Pro justement faisait dans son rapport à lui, qui est rappelé dans le rapport Athéna. Il rappelait donc, sur les préconisations d'Antoine Pro, avait été créé le PIREF, hein, un outil qui, et là je cite le rapport Athéna, coordonnait la recherche en éducation, améliorer, qui avait comme vision, comme projet, d'améliorer sa qualité et de mieux mettre ses résultats à la disposition des acteurs du système éducatif. Voilà, il me semble qu'on est toujours sur ce projet-là. Malheureusement, on sait que l'ANR met fin au PIREF en 2005. Et si l'ANR, depuis, soutient la recherche sur l'éducation par des appels d'offres ciblés, elle n'a pas pour mission justement de mettre en place un programme stratégique en sciences de l'éducation. Ça n'est pas d'ailleurs non plus la mission des régions de France, hein, qui depuis 15 ans prennent l'importance, financent des recherches, mais qui n'a pas pour mission donc, de structurer l'action publique en matière d'éducation. Je rappellerai aussi une chose qui rappelait justement dans ce rapport Athéna, dans le premier volume, ce qui apparaît comme une fragilité des sciences de l'éducation, l'absence de laboratoire CNRS et le fait que finalement cette absence de laboratoire empêche d'être soutenue par le CNRS et a un effet symbolique de dépréciation, rappelle le rapport, un effet matériel et humain et un effet d'isolement. Le rapport rappelle aussi que l'IREDU a été donc UMR, CNRS, et qu'elle a perdu, que le laboratoire a perdu ce statut au début des années 2000, alors qu'elle est très sollicitée par la puissance publique pour réaliser des enquêtes synthétiques sur des sujets sensibles. Donc, une mission qu'on doit continuer à pouvoir poursuivre. Quelques questions pour finir ce point et laisser le dernier mot à Marie-Pierre. Que donnera le laboratoire de l'éducation créé en janvier 2016 par le CNRS, cette UMS, unité mixte de services qui associe le CNRS et l'ENS de Lyon? Mais encore, quels seront les effets des instituts Carnot créés en 2016? Quelle articulation avec les LEA, les lieux d'éducation associés, développés par l'IFE, et avec les recherches actions ou encore avec les laboratoires qui travaillent sur les secteurs d'activité en éducation et travail social? Enfin, du côté des lieux de rencontre entre chercheurs, acteurs de terrain et politiques, comment rebondir face à un rôle historique des associations et des mouvements militants qui décroît, il me semble, du fait en partie peut-être d'une volonté insuffisante de la puissance publique pour permettre des temps de travail commun. Voilà, finalement, je voulais conclure là-dessus, que face à ces modifications permanentes des lieux institutionnels que nous devons investir pour nous y faire entendre, pour où nous avons à travailler nos relations, hein, c'est le titre qu'on a donné, non seulement avec l'extérieur, mais d'abord et avant tout, il me semble, de l'intérieur, c'est-à-dire entre nous, pour pouvoir travailler un esprit de, enfin, continuer à développer un esprit de solidarité, des rapports de confiance, un effort de responsabilité, évoqué par Rita, afin de savoir faire entendre les résultats de nos recherches qui continuent d'être sous-utilisées dans les décisions politiques.
Bien, merci beaucoup Julie pour ce regard beaucoup plus institutionnel parce que dans ce souhait de partager les cultures, je crois que ces éléments-là sur les nouveaux lieux de nos gouvernances vont devoir faire partie de ce que l'on peut raconter. C'est pas la partie du récit la plus épanouissante peut-être pour nos étudiants, mais les jeunes collègues, je pense, vont devoir s'acculturer et faire avec ces lieux par lesquels des décisions seront prises. Donc merci beaucoup de nous avoir donné cet éclairage. Et pour essayer de ne pas vous retenir plus longtemps, nous voilà arrivés donc à l'issue de ces quatre temps, dont vous l'aurez compris. Ils sont très différents les uns des autres quant à la nature des phénomènes qu'ils convoquent et à la manière dont ils rencontrent nos préoccupations respectives. Ils sont très différents aussi dans leur teneur quant aux enjeux qu'ils ouvrent pour demain, mais nous ne pouvions pas faire notre petite histoire sans les parcourir les uns les autres et prendre le risque de les tenir ensemble. Ces quatre moments sont celui du temps de l'engagement subversif et indiscipliné de 1967, où des associations plus ou moins improbables, on a parlé de mousquetaires, de coups de tonnerre, pardon, vous voyez, je fais le tonnerre, de projets plus discrets et qu'il faut pouvoir mettre en lumière pour comprendre que tout ne sort pas ex nihilo, mais qu'il y avait bien des choses à l'œuvre. Comment tout cela a pu se fédérer pour être discipline ? L'enthousiasme réaliste des 25 ans, avec ces étudiants à qui l'on donne des visages, la parole, et leurs paroles et ces visages donnant visage et parole à notre discipline. Le temps de la capacité réflexive des 40, où l'on mesure à la fois l'autonomie conquise, des disciplines filles, nous sommes devenues sœurs, entre-temps, les disciplines contributrices avaient été évoquées, en même temps que cette réflexion conduit à entrevoir les effets possiblement nocifs d'une normalisation, d'une homogénéisation de nos formats de diffusion de savoir avec d'autres disciplines. Plus de licences suspendues, c'est ce que tu évoquais. Quant à parler des 50 ans, alors le recul manque évidemment. Et ce que je voudrais souligner, c'est que le rythme effréné des modifications permanentes que tu viens d'évoquer dans la toute dernière partie participe peut-être aussi à flouter notre regard. En nous retenant de voir quelle direction nous semblerait belle et importante, nécessaire, j'entends. Pourtant, raconter ces histoires permet de se risquer à inventer la suite, permet de ne pas céder à cette emprise du flou et de cette accélération. Dans cette suite, j'avoue que je serai paradoxalement assez sereine à l'idée que nos résultats tu avais évoqué dans l'écrit l'idée qu'il n'était pas encore très utilisé par les politiques. Moi, je serais assez sereine, en l'état actuel de nos instances, que nos résultats soient pour le moment sous-utilisés dans les décisions politiques. Je voudrais clarifier cette position, quand même. En fait, je pense plutôt que dans l'état actuel où sont les choses, nos résultats ne seront véritablement utilisés par les politiques que s'ils correspondent assez largement à ce que les politiques veulent mettre en œuvre. Poupeau dénonçait au début des années 2000 ce qu'il désignait comme une sociologie d'État, et de ce point de vue, je voudrais dire que nous avons une belle avance en sciences de l'éducation. Une science pour la République, voilà, c'était notre histoire du 19e et du début du 20e siècle. On a évoqué ici la contribution de Jacqueline Gotterin. Finalement, de ce point de vue-là, on a vraiment un temps d'avance sur les autres sciences sociales, parce qu'il me semble que cette longue histoire épaisse qui déborde de 67 et qui déborde du cadre français dans lequel nous sommes ici cantonnés, eh bien, a pu nous permettre de conquérir des rapports plus subtils avec la société que la simple utilité politique. Alors que les sciences de l'éducation doivent entretenir des relations, y compris avec cette politique, et ne pas renoncer à cet objectif, ce qu'on dit est un véritable enjeu, j'y souscris tout à fait. Mais je voudrais souligner que ces relations que l'on place ici, savoir se faire entendre et travailler ces relations, ne devront pas, je l'espère, détruire, amenuiser l'importance d'autres types de relations que notre histoire aura voulu donner à voir. Nos relations avec nos objets, d'une part, pour revenir à la dimension objectiviste de nos métiers de chercheurs. Comment la course au rapport et au positionnement, à se faire entendre, pourrait nous laisser encore longtemps le temps de traiter rigoureusement nos questions, nos méthodes, nos interprétations, avec toute la rigueur qu'elles requièrent. Nous savons le temps qu'il faut pour construire des objectivations solides. Relations encore avec les sujets, d'autre part. Dimension solidariste, vous l'aurez compris, puis objectiviste. Solidariste avec les publics que l'on accueille dans nos formations, mais ceux aussi qui sont, l'objet de nos enquêtes. C'est un lapsus, vous voyez, qui ne devrait pas devenir les objets de nos enquêtes, mais rester bien l'objet, et à qui, par nos mots, nous donnons la parole dans cette dimension solidariste qui n'a rien d'une simple charité bienveillante, qui peut rester un vrai travail scientifique. Nos étudiants, encore, qui auront à bâtir pour la plupart les générations de demain par leur travail d'éducateur et également notre discipline. Peut-être seront-ils les futurs chercheurs. Mais cette solidarité, ou plutôt ce solidarisme, comme tu l'évoquais en finissant, il ne faut pas non plus qu'il s'étiole à l'intérieur de notre communauté. Communauté de chercheurs en sciences de l'éducation, j'ai cherché toute la nuit un mot en log, j'ai toujours pas trouvé. De la courtoisie, disait Pierre Clanchet, de la bienveillance et de l'amicalité, comme nous l'avons trouvé sur ce très beau colloque. Et je tiens à remercier le CIRNEF, les organisateurs et la ECSE pour ça, pour cette bienveillance, précisément pour qu'elle permette la difficulté psychique et technique de l'entreprise objectiviste. Notre histoire, pour le coup, celle qu'on a racontée, me donne beaucoup d'espoir. Je ne serai pas aussi... peut-être que c'est l'inconscience d'être née là-dedans et de trouver ça complètement naturel. Les sciences de l'éducation sont un domaine d'étude des sociétés qui me semble incontournable. Je ne vois même pas comment les politiques pourraient en douter. Parce que d'une part, elles traitent de sujets, les enfants, les adolescents, les patients, les usagers, et d'institutions, la famille, l'école, les espaces associatifs, qui les composent. Et surtout, de manière encore plus fondamentale et qu'on oublie encore, et c'est là que notre inscription dans les sciences humaines et sociales est fondamentale, surtout parce que notre discipline part sans relâche à la conquête de ce qui fabrique à la fois les sujets et la société. Il n'y a pas de sujet sans société, et l'inverse, on le sait finalement. Je ne vais pas citer Erasme, l'homme ne naît pas homme, il le devient, mais si quand même, tu vois, quand on dit qu'on ne le fait pas, on le fait. Notre objet est ce processus de fabrication puissant, dont les formes évoluent sans cesse et ouvrent à de nouveaux défis de la pensée. Assumons cela et affûtons nos armes objectivistes, si l'on veut bien entendre que les formes d'objectivation, peut-être là en écho à l'expérimentalisme porté par Mialaré, si l'on peut entendre que ces formes d'objectivation puissent être plurielles, avec des paradigmes scientifiques pluriels. Et tentons bien sûr dans le même temps de prendre soin de notre solidarisme, de nous coucouner, c'est un mot que j'aime assez. J'essaierai de le faire, tenir cet équilibre entre solidarisme et objectivisme, en racontant, sans être historienne, ces bribes d'histoire à mes étudiants, doctorants et collègues bordelais. En vous les racontant ici ce vendredi, dans un exercice difficile à deux, c'est la première fois que nous travaillions ensemble. Nous avons en tout cas construit le nôtre, notre solidarisme, et j'espère que nous avons essayé de le partager avec vous. Merci Julie pour ça. Tout cela ne dit pas ce que nous serons demain, et nous ne voulions pas nous jouer les Madame Irma dans une boule de cristal, mais tout ceci, raconter ces histoires et repartir dans l'histoire, nous permettait finalement de trouver et de partager ces quelques idées, ces quelques notions autour du solidarisme qui nous pensent être les meilleurs moyens d'être au moins quelque chose de bien. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup encore à l'AECSE et au CIRNEF pour cette belle invitation et ce moment de solidarisme fort. Merci. Merci.